Bonsoir, comment allez-vous ? Autrefois, on ne disait pas aux enfants que ce qu'ils faisaient était bien, même si on le pensait, car on craignait qu'ils ne s'endorment sur leur laurier. Pour les booster, les enseignants écrivaient le fameux « peut mieux faire ». Ils ne mettaient jamais 20 sur 20. De leur côté, les parents évoquaient la difficulté des études, la difficulté à trouver un travail intéressant. Ils mettaient leurs enfants en garde, pensant sincèrement que c'était le meilleur moyen de les armer pour la vie. Ces enfants devenus adultes cherchent désespérément auprès des psys à réparer la mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes. Faut-il qu'ils soient nuls pour n'avoir jamais réussi à récolter le moindre compliment ? Je me demande parfois si nous ne sommes pas en train de recommencer. Alerter sur le plastique, les pesticides, la déforestation, le manque d'eau, oui, c'est hélas une réalité. Mais si nous voulons motiver les forces vives, n'oublions pas aussi de nous réjouir de ce qu'il y a de bon. Une insomnie sur des épines n'est pas plus efficace qu'un somme sur des lauriers. Plus j'ai de printemps et plus j'aime le printemps. En ce moment, chez nous, les fruitiers sont en fleurs. Merci les arbres, c'est votre éclat qui va nous donner la force de sauver vos congénères.
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir combien il y a d'arbres sur Terre. Merci.
Bonjour, je m'appelle Zachary. J'ai 5 ans, je suis en CP et je voudrais savoir combien il y a d'arbres sur la Terre. Merci.
Bonsoir Arthur et Zachary. Combien il y a d'arbres sur Terre ? Erne-sur-Zurcher, vous avez écrit « Les arbres entre visibles et invisibles ». C'est édité chez Actes Sud. Je pense qu'il parle des arbres visibles, Arthur et Zachary.
Oui, certainement, c'est ça qui les intéresse. Ils ont très raison de s'intéresser aux arbres et de se demander combien y a-t-il d'arbres sur notre belle terre ? Et on connaît la réponse exactement depuis peu de temps, depuis 2015. Une étude vient de sortir dans Nature, décompte global des arbres sur Terre. Et on a pu découvrir, grâce à des prises de vue satellites, qu'on avait en tout un nombre de 3000 milliards d'arbres. Donc c'est un chiffre qui est à peine possible de se représenter. 3000 milliards d'arbres, on peut simplifier les choses. Par habitant de la Terre, ça fait 400 arbres par personne, à partir de 10 cm de diamètre. Mais là, il faut savoir que ces
arbres... Quand vous dites Erne-sur-Cher par habitant de la Terre, par habitant humain ?
Par habitant humain, exactement. Ouais, on d'accord. est à peu près 8 milliards, ouais. Donc ça fait 400 arbres par habitant qui ont plus que 10 cm de diamètre. Mais il faut bien comprendre que les forêts sont très différentes d'après l'endroit où elles poussent. Vous avez les forêts tropicales très hautes, avec des arbres en général beaucoup plus gros que les forêts boréales, beaucoup plus basses. Les arbres sont tout petits au grand nord. Et là-bas, vous avez un très grand nombre, avec très peu d'espèces qui les représentent. Alors qu'en zone tropicale, c'est des gros arbres avec énormément d'espèces. Donc, où sont ces arbres ? C'est un mélange.
Alors nous, Erne-sur-Cher en France, nous avons des arbres entre les deux, entre les forêts boréales et les forêts tropicales. On est quoi ? Pile au milieu ou plus vers le maigre ou plus vers le gros ?
Oui, c'est du point de vue des essences, du nombre d'espèces, de la biodiversité, c'est très très peu encore. C'est une cinquantaine, soixantaine d'essences qui forment les forêts d'Europe centrale. Alors qu'en zone tropicale, vous avez un nombre d'espèces différentes qui est entre 50 000 et 100 000. C'est énorme. Et en Scandinavie, c'est plus qu'une demi-douzaine d'espèces qui couvrent presque la totalité des forêts.
Voilà pourquoi il faut préserver nos forêts, mais j'avais dit que je ne vous ferais pas flipper les jeunes ce soir. Ce soir, justement, dans les petits bateaux, nous verrons comment le manque de sommeil peut faire grossir, d'où vient l'expression « pied noir » et nous saurons combien de satellites, vivants ou morts, tournent autour de la Terre. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 6 ans et demi. J'aimerais savoir comment les métros font pour aller si vite d'arrêt en arrêt. Merci.
Lucie, comment les métros font pour aller si vite d'arrêt en arrêt ? Donc entre deux arrêts, Clive Lamming, vous êtes historien des chemins de fer. Le métro est un chemin de fer. Presque.
Le métro est totalement un chemin de fer.
Ah pardon.
C'est ce qu'on appelle un chemin de fer d'intérêt local, d'ailleurs, comme dans la campagne. Le métro parisien est un chemin de fer d'intérêt local. Alors l'intérêt du métro, c'est le débit. Plus une rame démarre vite, plus grand est le débit de la ligne. Autrement dit, les métros doivent démarrer vite et freiner énergiquement. Alors voilà la raison pour laquelle les métros ne perdent pas de temps et accélèrent de manière à ce que le suivant puisse rentrer en station. On augmente le débit de la ligne sans augmenter pour autant, je dirais, la dimension des stations, enfin, etc. Oui, donc c'est une solution extrêmement économique. Le simple problème, c'est que ça demande beaucoup de puissance. Et une rame de métro est très puissante, ça peut faire jusqu'à 500 chevaux, mais vous savez, c'est très écologique. Parce que on est 500 personnes dans une rame, ça fait même pas un cheval par personne. Autrement dit, la consommation est infime, c'est zéro, c'est pas même un vélo Sodex. Autrement dit, le métro, donc, il reste très économique. Mais son intérêt, c'est effectivement, c'est de démarrer énergiquement comme une voiture de course. Et vous savez que quand un métro est obligé de freiner violemment, par exemple, s'il y a une alerte ou un incident, vous savez que ça met les gens par terre, je sais pas si vous en avez déjà aperçu, que les coups de frein de métro sont vraiment redoutables. Alors, ça a surtout été permis par le métro sur pneus. Parce que les pneus adhèrent bien, donc permettent des démarrages énergiques. Mais aujourd'hui, les métros sur rails acier ont les mêmes démarrages, en multipliant les moteurs, en multipliant la puissance.
Je comprends pas la différence entre sur pneus et sur rails acier, Clive.
Les métros sur pneus sont apparus dans les années 60 quand il s'agissait de trouver une astuce pour pouvoir augmenter les accélérations. Vous savez que la ligne 1, par exemple, est sur pneus. La ligne 11 est sur pneus. Vous voyez, il y en a d'autres. La ligne 4 maintenant est sur pneus. Ce sont donc des roues de camion. Avec des pneumatiques.
Terre, ce sont des rails.
Mais par terre, c'est des pistes en ciment, c'est pas des rails. Ah. Et alors, le pneu, c'est une route, adhère très fortement. Une voiture de course peut accélérer très fortement sans patiner. Alors qu'un train à roue acier sur rail acier, il patine. Mais aujourd'hui, on a trouvé une astuce avec les métros sur rail acier. On arrive à les faire démarrer très énergiquement.
Donc, les métros modernes ne sont plus des roues en métal sur des rails, mais des pneus en caoutchouc. Sur des routes en ciment.
Mais dans les années 60-70, aujourd'hui, la plus grande modernité encore, c'est de revenir aux rails acier parce qu'on a réussi à trouver l'astuce pour pas que ça patine. Autrement dit, c'était moderne en son temps, ça ne l'est plus.
Clive Lamming, Mehdi Fatah, me dit dans les oreilles, comment fait-on, puisque les métros sur rails étaient électrifiés, donc l'électricité était dans les roues, comment fait-on pour faire passer l'électricité quand ce sont des pneus?
Très bonne question.
Eh oui, on nous l'a bien embêté.
Pas du tout. La question de savoir comment est-ce que les métros sur pneus peuvent capter le courant électrique, elle est assez simple. Il a fallu simplement équiper les voies avec des rails métalliques qui sont de chaque côté. Si on regarde bien une voie sur pneus, on voit les deux pistes de roulement.
Ah oui.
Et on voit des petits rails très fins sur lesquels viennent prendre appui des frotteurs. C'était une des complications dues aux pneus. Alors que, effectivement, avec le rail en acier, le retour du courant se fait par les roues. Et c'est tout.
Clive Lamming connaît tout sur ce qui roule, j'allais dire, mais sa spécialité, ce sont les trains. Vous trouverez les références de ses livres sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr. Allez, après le métro, un tube.
Emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa.
Ricci et Poveri, voilà ce qu'écoute Marjorie de Vaucoux et Jean-Baptiste Audibert dans le bureau l'après-midi, à un niveau sonore que vous pouvez même pas imaginer, en nous faisant croire qu'ils travaillent. Oh bah oui, ils font la programmation des petits bateaux.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le CNES, c'est la NASA française, à moins que ce soit la NASA qui soit le CNES américain. En tout cas, Christophe Bonal est ingénieur, chercheur au CNES.
Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 38 ans et je voudrais savoir combien il y a de satellites qui tournent autour de la Terre. Merci, au revoir.
Vincent, on n'a pas une réponse très claire parce que vous avez le droit d'envoyer un satellite et qu'il marche ou qu'il ne marche pas, etc. Mais donc le recensement actuel qu'on en a, il y a à peu près 1600 satellites actifs. C'est pas énorme. Par contre, j'ai dit actifs, ça veut dire qu'il y en a à peu près 4000 qui par contre sont inactifs, non opérationnels, qui sont morts là-haut, qui finalement sont des débris spatiaux. Un débris, ce qu'on appelle un débris, c'est un objet artificiel, donc fait de la main de l'homme, qui est non fonctionnel, donc qui ne sert plus à rien. Et donc, par exemple, souvent, généralement, ce qu'on fait avec un satellite en orbite basse, par exemple, va fonctionner pendant 7, 8, 9 ans. Hein, et au bout de ça, il tombe en panne là-haut et on le laisse là-haut. Donc, malheureusement, on a 4000 vieux satellites qui sont là-haut qui servent à rien. Et le problème, bien sûr, c'est on a également souvent les étages de fusées qui ont servi à les envoyer là-haut. Donc là, on a à peu près 2000 étages de fusées en plus. Et puis après, ceux-là... Ça leur arrive quand même d'exploser en orbite, ou bien de se rencontrer, et puis de leur collision peuvent naître des milliers de nouveaux débris. Donc aujourd'hui, par exemple, les objets de plus de 10 cm, mettons la taille du poing, on estime qu'il y en a à peu près 30 000. Et quand on descend encore un petit peu au point de vue de la taille, par exemple des objets de 1 cent, Vincent, on doit en avoir 900 000, je crois, à notre dernier décompte. Wow. Mais si on descend encore plus bas, par exemple, à des objets de 1 mm, il y en a 130 millions. Alors 1 mm, tu me diras, c'est pas énorme, mais 1 mm lancé à la vitesse orbitale, c'est-à-dire 30 000 km à l'heure, au point de vue de l'énergie cinétique, qui, pour les puristes, ça varie comme le carré de la vitesse. Et donc là, c'est la même énergie, une petite bille de 1 mm de diamètre, c'est la même énergie qu'une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure.
Wow.
Et donc là, tout de suite, ça fait des dégâts. Une bille de 1 cent, donc il y en a 900 000, une bille de 1 cent, c'est la même énergie qu'une grosse voiture à 130 km à l'heure. Et donc c'est ça qui fait que pour préserver nos 1600 satellites actifs, il est fondamental d'arriver à maîtriser un peu la population qui est autour, sinon ça peut mal se passer.
Et Christophe Bonal, maintenant qu'on sait ça?
On a encore des mauvaises habitudes. Alors, heureusement, on y travaille beaucoup pour essayer de voir comment on peut nettoyer, comment on peut être propre déjà. Donc avoir toute une réglementation. La réglementation qu'on est en train d'instaurer au niveau international est très simple. C'est tout ce qui monte là-haut doit redescendre. Et de façon contrôlée. Donc, ok. Donc, on a, en fin de mission, quand on a terminé avec un étage de fusée ou un satellite, mais s'il vous plaît, vous nettoyez. Donc, vous rallumez les moteurs du satellite pour le faire retomber, par exemple, dans le sud du Pacifique pour qu'il ne tombe pas dessus.
Christophe Bonal a écrit dans son livre édité chez Belin, Pollution spatiale, l'état d'urgence, que les réglementations qui se mettent en place ne suffiront pas, une nouvelle profession doit voir le jour, celle des boueurs de l'espace. Pour ce livre, il a reçu en 2018 un super prix, le prix de l'International Academy of... Oh non, je ne peux pas vous le dire à cause de mon accent, vous irez le voir, ce prix, tout en entier, il est un petit peu long parce qu'il est prestigieux, sur le site des petits bateaux par franceinter.fr.
Je m'appelle Philippe, j'ai 58 ans, et je voudrais savoir d'où vient l'expression « pied noir ». Merci de me répondre, au revoir.
Ah, bonsoir Philippe, merci pour votre question. On ne savait pas très bien qui l'a donné, à vrai dire. Nous l'avons proposé à l'historien Jean-Yves Le Naour, spécialiste de la Première Guerre mondiale, mais auteur de beaucoup de livres. D'où vient l'expression « pied noir », Jean-Yves Le Naour ?
Eh bien, figurez-vous qu'on ne sait pas. On
ah
sait.
Bon
oui, il y a plusieurs hypothèses. Alors, on peut en parler, mais c'est vrai que pied noir, évidemment, ça désigne les Français d'Algérie et les rapatriés d'Algérie qui ont fait le choix de la valise plutôt que du cercueil.
C'est Martin Longa, quoi, pour nous.
Exactement. Bon, et donc ils s'intitulent pied noir, ils se reconnaissent comme pied noir, on les appelle les pieds noirs, mais au fait, d'où ça vient? Et là, vous avez de multiples hypothèses. Alors, vous avez ceux qui disent que les soldats qui ont fait la conquête de l'Algérie au 19e siècle avaient des souliers noirs, et donc quand ils enlevaient leurs chaussures, ils avaient avaient des pieds noirs parce que les chaussures avaient des teints. Bon, je n'y crois absolument pas. C'est comme, il y a une autre hypothèse, ils foulaient le raisin, voilà, ils ont cultivé des vignes, foulaient le raisin et donc ils avaient des pieds. Bon, mais je n'y crois pas parce qu'en fait, cette expression, on la voit apparaître dans les années 50. Donc très très tardivement. Et la conquête de l'Algérie, vous voyez, ça relève du 19e siècle. Donc ça me semble n'avoir absolument aucun rapport.
Puis dans le Bordelais, on aurait aussi appelé les habitants des
oui,
pieds noirs.
Oui, exactement. Oui, pour le vin, non, non. Donc il y a d'autres explications sans doute, mais on est dans le champ des hypothèses. Je ne peux pas vous dire c'est celle-là. Alors par exemple, il y a des historiens, Guy Pervillet pour le citer, qui ont inversé les données, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'au départ, l'expression pieds noirs, eh bien, elle désignait les indigènes d'Algérie. Et c'était une expression qui était péjorative. Pourquoi? Parce qu'ils portaient pas de chaussures pour la plupart du temps dans les bleds, dans les villages, donc ils allaient pieds nus et donc ils avaient les pieds sales. Et ensuite cette expression, eh bien, elle serait passée en métropole et en métropole elle aurait désigné les Français d'Algérie. C'est-à-dire que les Français de métropole auraient désigné les Français d'Algérie comme finalement des Français de seconde zone, hein, un petit peu, des pieds noirs par rapport à eux. Et donc la moralité de cette histoire, c'est qu'on est toujours le pied noir de quelqu'un d'autre.
Jean-Yves Le Naour est un historien qui a beaucoup écrit. Les références de ses ouvrages sont sur le site des Petits Bateaux.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en dom, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. J'ai le cœur en dom, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'ils m'impressionnent, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. Souvent, je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvants d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fétiller en douceur, me faire bander aimants dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh,
c'était Eddie de Pretto, random, qui veut dire hasard. Eddie de Pretto qui a reçu le prix du Printemps de Bourges en 2017. Printemps de Bourges qui redémarrera le 16 avril prochain. Avec le passage à l'heure d'été, notre dernière nuit, donc notre temps de sommeil, a été écourté d'une heure. En principe, nous nous coucherons donc ce soir une heure plus tôt. Aurons-nous pour autant sommeil une heure plus tôt? Le professeur Isabelle Arnulf est chef de service des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Bonjour, je m'appelle Périne, j'ai 11 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi le sommeil est capital. Merci, au revoir.
Alors Périne a tout à fait raison, le sommeil est capital. On le sait parce que quand on le supprime ou qu'on le diminue, les gens vont très mal. Les animaux, même si on les empêche de dormir, ils finissent par mourir.
Au bout de combien de temps pour un humain?
3-4 semaines pour un animal. Alors pour un humain, heureusement, on ne sait pas. Personne n'a essayé. Le plus long qui a été essayé, c'est 11 jours sans dormir. C'était un record pour le Guinness Book, 11 jours et 11 nuits. Mais la personne n'était pas fraîche du tout. Puis elle avait sans arrêt des petits accès de sommeil. Elle avait des hallucinations. Et puis son cerveau fonctionnait pas bien.
C'est vrai que vous n'avez pas le droit de faire vos expériences avec des cobayes humains, et c'est une bonne chose, heureusement. Ouais, ouais. On va voir au bout de combien de temps il meurt, ça y est, il est mort.
Alors, au-delà de la mort par épuisement, on sait rien qu'en ne dormant pas bien une nuit, ou même en ne dormant que 5 heures, 5 nuits de suite, ça va déjà mal. On a vraiment besoin d'une bonne quantité de sommeil. Alors, qu'est-ce qui va mal? La première chose qui va pas très bien, et à quoi sert le sommeil, c'est pour le cerveau. Pendant longtemps, d'ailleurs, on a cru qu'il servait que au cerveau. La mémoire est moins bonne, les personnes commencent à avoir des hallucinations, elles ont des problèmes de concentration. Par exemple, quand on a mal dormi à l'école, on va moins écouter le professeur, être un peu plus agité, du mal à se concentrer, et puis faire plus d'erreurs, de fautes. Par exemple, une personne qui n'a pas bien dormi ou qui conduit la nuit alors qu'elle n'a pas dormi depuis très longtemps, elle va mettre du temps à freiner quand il y a un obstacle. Elle va avoir tendance à dévier son véhicule sur la gauche ou la droite et toucher la glissière. Et puis, elle a un problème de jugement des choses, elle ne juge pas assez vite. Par exemple, il y a un de mes patients qui me dit « Je sais quand je suis limite la nuit en voiture, c'est quand je m'arrête à un stop et que j'attends qu'il passe au vert. »
Ah oui.
Ça peut attendre un moment puisque c'est pas un feu. Vous voyez ce trouble du jugement. Donc le cerveau fonctionne beaucoup moins bien quand on ne dort pas assez. Les autres fonctions qui sont liées au sommeil et qui ont lieu pendant le sommeil, c'est la fonction de croissance du corps. On fabrique l'hormone qui nous fait grandir pendant le sommeil. C'est pour ça que c'est particulièrement capital chez l'enfant, au-delà du fait qu'il a besoin d'apprendre plein de choses et de les consolider pendant son sommeil. L'immunité est meilleure grâce au sommeil. On fabrique pendant le sommeil plus de cellules de défense et d'anticorps. Et donc, voilà. Si on ne dort pas assez, on se défend moins bien contre les virus, les bactéries, les cellules cancéreuses.
Moi, je pensais que les enfants qui étaient plus grands étaient les enfants qui mangeaient mieux. Mais ce sont les enfants aussi qui dorment mieux.
Absolument, qui dorment mieux. Et au-delà de la taille, pendant le sommeil, on dégrade les graisses pour les transformer en muscles. Et du coup, les enfants qui ne dorment pas assez ont tendance à grossir. Et c'est le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus d'obésité chez les adolescents et les enfants, parce qu'ils dorment moins, ils sont sur les tablettes. Quand on ne dort pas, en plus, on a tendance à manger plus. Et pas à manger des poulets salades, à manger des mars, des snacks, du sucre, du gras, des choses qui font plaisir. Et on le sait, chez les travailleurs de nuit, ils ont tendance à grossir. Donc, il y a à la fois un effet pour le cerveau, de protection, d'apprentissage, de mémoire, mais aussi un effet général pour le corps, de régulation du sucre, des lipides et de la croissance.
Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr ou bien poser une question sur le 01 56 40 43 57. Nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Jean-Baptiste Audibert, Pauline Laverdure, Marjorie de Voucou, Noël Bréham.